Militant Les Républicains, Camille Galthié est notre invité.
Il fait partie de la jeune génération des Républicains et milite depuis déjà quelques années sur le département des Alpes-de-Haute-Provence. Il est d'ailleurs le délégué de la deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. J'ai le plaisir de recevoir Camille Galthié. Bonjour Camille.
Merci François, merci à vous de me recevoir au sein de votre antenne.
Vous organisez une réunion de rentrée un petit peu particulière à Manosque. Je vais vous laisser l'annoncer parce que je la trouve plutôt originale.
Oui, avec un certain nombre d'amis, on a décidé de passer un moment convivial pour marquer la rentrée scolaire pour les enfants, la rentrée du boulot pour ceux qui travaillent. Et donc, on passera un moment convivial avec une montée vers le Mont d'Or. C'est un lieu symbolique de Manosque et on voulait marquer le coup comme ça.
C'est ce samedi ?
C'est ce samedi à 17h30.
Vous aurez du beau temps ?
On aura du beau temps.
Pourquoi vous faites une montée comme cela? Je pense par exemple à François Mitterrand ou à Wauquiez aussi qui fait ça chez lui. Enfin, c'est une ambiance particulière que vous recherchez, vous, les politiques, dans ce type de marche?
C'est de se dire actuellement que malgré que les partis soient utiles, hein, c'est ce qui est marqué dans la constitution de notre pays, il y a quand même un rejet des politiques et des partis, notamment parce que depuis un certain nombre d'années, les gens pensent que les partis se servent plus qu'ils ne servent les Français. Donc moi, je pars de ce constat et je me dis, malgré que je sois de droite, je suis de droite, je resterai de droite demain, il faut quand même essayer de concerner l'ensemble des citoyens et essayer de les faire revenir, pas à la vie politique, mais à la vie publique et à la vie citoyenne. Et donc, à la vie politique, mais avec un grand P, comme dirait Jacques Chirac. Donc, voilà, à travers des événements conviviaux, on va pouvoir discuter, échanger sur le territoire, Manosque, mais plus globalement de la DLVA pour ce qui nous concerne.
Alors vous l'avez dit, les partis politiques qui ont été chamboulés ces derniers mois, on a eu une élection présidentielle extraordinaire avec des imprévus absolument impensables quelques mois avant. On a deux partis majeurs de l'échiquier politique français qui ont été blackboulés pour le deuxième tour des élections, dont les Républicains. Comment vous avez vécu cette période vous-même ?
Ça a été une période très difficile. Hein. Jusqu'au bout, nous avons fait campagne avec un grand nombre d'amis pour François Fillon. Pas tellement pour l'homme au final, mais plus pour les idées qu'il représentait et qu'il était censé porter. On a perdu, c'est un échec global de la droite et pas seulement d'un homme, puisque derrière, les législatives ont été un long chemin de croix, puisque nous passons de 220 députés à 115. C'est dramatique pour la droite française. Cependant, bon, maintenant, on va repartir de l'avant avec une élection qui arrivera en décembre avec un nouveau président et avec surtout des élections locales qui arriveront dans 3 ans, ce qui laisse le temps à chacun de mûrir de nouvelles idées et de travailler son terrain.
Vous avez évoqué les législatives avec un cas très particulier qui a été connu après nationalement, c'est le mensonge de Sébastien Ginet qui a fait qu'on a pointé du doigt la deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Je le rappelle très très brièvement, Sébastien Ginet, arrivant en retard dans une conférence de presse, a déclaré que sa mère était morte, ce qui n'était pas le cas. Et évidemment, ça a fait les choux gras de la presse et ça a décrédibilisé votre parti, Camille Galthié.
Je pense qu'il en a porté les conséquences lors des élections législatives, puisqu'il a fait un score très faible, en perdant donc face à Christophe Castaner, qui a fait lui un score remarquable, du fait, pour ma part, je pense, d'une faiblesse de la droite républicaine dans les Alpes-de-Haute-Provence depuis un certain nombre d'années. Donc, il en a tiré les conclusions, je le pense, puisqu'il a démissionné du conseil municipal de Fort-Calquier, et qu'il a dit qu'il démissionnerait de la présidence des Républicains dans quelques semaines avant le congrès du parti. Dont acte.
Donc c'est à suivre. Vous avez des nouvelles de Sébastien Ginet ?
Absolument pas, depuis cette histoire, fâcheuse histoire.
Très bien, fermons la parenthèse. Camille, vous êtes un jeune militant, vous l'avez dit, vous êtes de droite et vous resterez de droite. Vous avez des idées particulières sur le territoire et des dossiers spécifique que vous voulez porter?
Écoutez, je ne sais pas encore sous quelle forme on va travailler. Je sais qu'avec un certain nombre d'amis, on a des idées, quelques idées de pour le territoire et pour Manosque, bien évidemment. Aujourd'hui, les Français, qu'on soit de droite ou de gauche, chacun a ses propres opinions et ses propres valeurs. Moi, comme je l'ai dit, je ne m'excuserai pas d'être de droite. C'est pas une maladie, comme certains aiment le faire croire. Je suis bien dans mes bottes. Les Républicains, c'est le parti traditionnel du général de Gaulle, de Pompidou, jusqu'à Chirac, et en passant par Nicolas Sarkozy, évidemment. Mais sur un certain nombre de sujets, et ça, les Français le disent, bah, il n'y a ni être de droite ni être de gauche. Par exemple, dans une commune, quand on parle de sécurité, quand on parle de transport, quand on parle de propreté et de civisme, c'est ni de droite ni de gauche, c'est du bon sens. Donc, sur certains points, on amènera des idées. Je ne sais pas encore sous quelle forme ça sera, même si, bien évidemment, ça n'empêche pas de réfléchir.
C'est l'une des leçons d'ailleurs de l'élection d'Emmanuel Macron qui disait « je suis et de droite et de gauche ». Et effectivement, il a ratissé beaucoup plus large que ce que l'on pensait avec ce type de réflexion et avec évidemment des dossiers importants. Camille Galthié, vous êtes jeune, vous n'avez pas encore 30 ans. Vous faites partie de la génération montante, je l'ai dit tout à l'heure, des Républicains. Dans quelques années, en 2020 très exactement, il y a un renouvellement qui se précise. Notamment dans deux fiefs de la droite qui sont Manosque et Sisteron, avec la retraite très probable de Bernard Jeanmey à Manosque et de Daniel Spagnou à Sisteron. Vous voyez des jeunes à leur place ?
Je pense qu'avant de parler de personnes, il faudra parler d'idées. Donc on a 3 ans pour cela. Donc moi, pour ma part, je m'évertuerai à parler seulement d'idées et non des personnes, parce que on l'a vu dans de nombreux cas, notamment au niveau national, que le combat de personnes, en général, ça termine mal. C'est ce qui s'est passé notamment avec François Fillon, puisque même avant les histoires financières, il y avait quand même des problématiques de personnes au sein des Républicains. Donc pour ma part, je n'entrerai pas dans ce débat. Il y a 3 ans de travail, moi je vais prendre ma part, et bien évidemment que je prendrai toute part aux prochaines élections. On verra sous quelle forme. Concernant les départs de Daniel Spagnou et de Bernard Jeanmey, le maire de Manosque a dit que ce serait son dernier mandat. Je pense que ça sera le cas. Concernant Daniel Spagnou, il a émis l'hypothèse que peut-être qu'il se représenterait. Donc on verra bien. Je crois qu'il y a des personnes de talent, que ça soit à Manosque ou à Sisteron. À Sisteron, j'ai un ami qui s'appelle Christophe Léon, qui est très talentueux, qui fait des très bonnes choses au sein de sa délégation. Donc on verra, il y a le temps et il ne faut pas tout précipiter, je crois.
Christophe Léon, qui en plus est en charge de la jeunesse à Sisteron. Donc c'est un sujet que l'on suit bien avec notre antenne sisteronaise. Donc si j'ai bien compris, vous êtes très attentif, mais en même temps, vous avez suivi, je suppose, les carrières de ces deux personnages, de ces deux hommes forts du département pour la droite.
Ben, bien évidemment, c'est des modèles dans le sens où forcément la longévité de leur carrière fait que on peut se dire qu'ils ont des qualités et de grandes qualités, tout comme de grands hommes comme ben, moi pour ma part je connais bien Jean-Claude Gaudin sur Marseille. Bon, c'est forcément des exemples à suivre. Après, je crois que les Français, notamment aussi les Bas-Alpins, il y aura une part de renouvellement et que les carrières politiques de 25 ans sont révolues. C'est ce que Emmanuel Macron a montré avec cette élection présidentielle. Avant, il fallait 25 ans pour devenir président de la République. Lui, en 2 ans, il est devenu. Donc je crois qu'il y a un changement qui s'opère et il faudra être attentif à cela et ne pas brûler les étapes trop vite.
Il a prouvé aussi qu'on pouvait être président de la République sans s'appuyer sur un parti. C'est un des événements de cette élection. Il faut absolument que les partis se rénovent. Vous allez prendre votre part, vous, dans la rénovation des Républicains. On le sait, vous l'avez dit, il y a des problèmes qui ont été liés à la non-élection de François Fillon, mais on sait aussi que votre parti est gravement endetté. Évidemment, vous avez perdu plus d'une centaine de députés. Ça aussi, c'est un mauvais coup qui a été fait aux Républicains. Comment vous réagissez par rapport à cela ?
Bah, écoutez, sur la dette du parti, je crois que le trésorier du parti, qui est Daniel Fasquelle, a fait en sorte que ça soit résolu, puisque maintenant la dette est ramenée au prix du siège du parti. Donc si demain on devait vendre le siège du parti à Paris, ben, la dette serait résolvée. Concernant, là c'est beaucoup plus préjudiciable puisque l'on perd le combat des idées, puisqu'on est passé de 300 députés en 2007 à 200 en 2012 à 100 maintenant. Donc c'est-à-dire que là il y a un véritable problème et c'est là où on devra travailler. répondre à un électorat qui nous fuit. Des sondages ont montré que 6% des moins de 35 ans ont voté pour nous. 6%. C'est dramatique. En 2007, il y avait plus de 30% des moins de 35 ans qui avaient voté Nicolas Sarkozy parce qu'il avait su répondre à des attentes et créer un espoir. Depuis, on n'a plus su parler à cette classe d'âge et aussi aux classes populaires. Je ne crois pas que la droite doive uniquement parler à son côté conservateur, mais aussi à toute une classe qui est populaire et aux classes moyennes. C'est cela l'enjeu des prochaines années.
On sait qu'il va y avoir l'élection du président de votre parti au mois de décembre. On sait que Laurent Wauquiez est plutôt favori dans ce cadre-là. Et on sait aussi qu'il a droitisé votre parti. Il cherche à rendre le parti plus droitier et en même temps à essayer de combattre sur les terres du Front National, mais en fricotant entre guillemets avec le Front National. C'est pas un danger?
Notre parti est issu de l'histoire gaulliste et le gaullisme, c'est de refuser toute alliance avec le Front National. Je crois que un certain nombre de cadors de notre parti diront toujours qu'il ne faut aucune alliance. Après, ça n'empêche pas que dans certains secteurs de notre territoire et de notre pays, certains puissent penser à faire des alliances de circonstances avec le Front National. Moi, je refuse cette idée. Il est hors de question de s'allier avec le Front National parce que l'on ne partage rien de ce qu'il porte, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de l'Europe. Moi, je suis profondément européen, je suis un enfant de l'Union européenne, je suis né en 1991. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes en France, notamment à cause de l'Europe, parce qu'on n'a pas su créer une Europe saine et égale pour tous les pays. Prenons le problème des travailleurs détachés. Donc, c'est pour ça, il faut rénover totalement l'Union européenne. Et sur ça, Laurent Wauquiez a raison. On ne peut pas laisser faire toutes ces choses aberrantes qui se passent sur notre territoire et qui sont en notre défaveur, surtout. Donc, il faut une souveraineté nationale sur certains sujets, mais tout en promouvant une Europe actuelle, puisque maintenant, c'est une réalité, c'est un constat, on ne reviendra pas en arrière. Concernant les sujets du Front National, je crois qu'aujourd'hui, parler de sécurité, parler d'incivisme, parler de propreté ou de transport, ce n'est pas parler du Front National, c'est parler des sujets évidents que les Français se préoccupent. Donc si demain on met un voile blanc sur des sujets et qu'on n'en parle plus, forcément il n'y aura que le Front National qui en parlera, et forcément le Front National montera. Bon, je crois que les électeurs du Front National, depuis le débat de l'entre-deux-tours, sont bien revenus, qu'ils ont vu la réalité de ce parti, et qui est aujourd'hui incapable de diriger ou de gouverner la France.
Il y a des thèmes qui sont quand même des thèmes qui peuvent être empoisonnés pour les partis politiques. Si je vous dis par exemple celui des migrants, si je vous dis celui de la radicalisation, évidemment, les solutions, entre guillemets, ne sont pas unanimes dans les partis politiques. Où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à l'aide aux migrants, par exemple?
Je crois que on a eu le sujet proche de chez nous, puisqu'on a eu dans les Hautes-Alpes une crise de migrants qui s'est déroulée.
Ça n'est pas terminé d'ailleurs.
Et qui continue, puisque ça, en effet, cela ne s'arrête pas. Je crois que Jean-Marie Bernard, président du département des Hautes-Alpes, a eu une décision sage et il est républicain. Être républicain, ça ne veut pas dire hein, bon, on ferme les frontières et on laisse la misère se développer. Aujourd'hui, ces migrants sont sur notre territoire. Les départements et les communes ont un devoir constitutionnel envers eux quand ils sont sur leur territoire, notamment concernant les mineurs. Il ne faut pas l'oublier, il faut en prendre acte, sinon ce sont les communes qui vont payer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour cette crise migratoire? Je crois que ce n'est pas à la France de la régler elle-même, ce n'est pas à la France de fermer ses frontières, c'est surtout régler le problème à la fois chez eux. Aujourd'hui, on sait que l'Afrique, demain, aura énormément d'enfants. Il y aura une crise migratoire vers l'Europe. Donc je crois qu'il faut apporter une aide dans ces pays-là plutôt que de voir les aider chez nous, parce que je crois que la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Aujourd'hui, on ne le peut plus.
Et il y a le rôle de l'Europe aussi qu'il faut développer.
Ben, évidemment, sur ce sujet-là, comme par exemple aussi sur le sujet des incendies, je crois que l'Europe a toute sa part et cela ne devrait plus être aux États seuls de devoir se débrouiller. Quand on voit la crise qui se passe en Italie, on ne peut pas dire aux Italiens « Débrouillez-vous » ou à Xavier Bertrand dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la région des Hauts-de-France de dire à Calais « cher Xavier, tu te débrouilles, c'est ton problème. Non, c'est impossible. Il faut que chacun prenne sa part, mais surtout qu'il y ait des décisions politiques au niveau de l'Union européenne, à travers le couple franco-allemand, parce que c'est le couple franco-allemand qui est le moteur de l'Union européenne, pour dire quelles solutions on va apporter en Moyen-Orient et en Afrique pour ne plus avoir cette crise des migrants, parce que c'est, encore une fois, impossible de dire que la France accueille toute la misère du monde.
Mais dans l'urgence, on a besoin d'accueillir des personnes. Vous savez qu'on n'arrive pas aux chiffres qui étaient annoncés par l'Europe, et la France rame un petit peu dans ce cadre-là, alors qu'on a des préfets comme Philippe Court, par exemple, dans le 05, dans les Hautes-Alpes, qui dit « je veux appliquer le protocole de Dublin pour pouvoir renvoyer des personnes qui ont fui leur pays pour des raisons dramatiques, de guerre et de misère, et je veux les renvoyer dans le pays par lequel ils sont arrivés en France, en l'occurrence en Italie. » C'est pas très digne, et en même temps ça n'est pas humain comme attitude.
C'est surtout pas très responsable. Je crois qu'il faut dissocier deux cas. Les migrants économiques et les migrants qui viennent parce qu'ils sont en danger dans leur propre pays. Ceux-là, bien évidemment, ils ont vocation à trouver chez nous une terre d'asile dans la limite de nos capacités d'accueil. Pour les migrants économiques, à un moment, il faut être responsable. Il faut que ces migrants-là retournent chez eux, parce que, encore une fois, nous n'avons pas les moyens. Comment expliquer aux Français qu'un certain nombre de leurs concitoyens sont dans la rue et que l'on ne s'en occupe pas, et on accueille dans le même temps un certain nombre d'immigrés? Tout ça est assez fâcheux. Je crois que, malheureusement, la France n'a pas les moyens seule de régler ce problème-là. Concernant les Hautes-Alpes, ils ont été envoyés, je crois, au lycée agricole, puis ils ont été déplacés. Malheureusement, on fait porter aux communes des responsabilités qui sont trop lourdes pour elles. Aujourd'hui, dans un contexte où on leur enlève des dotations globales de fonctionnement, où leurs revenus baissent, on peut pas leur dire dans le même temps qu'il y aura des charges supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est clairement ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est à l'État et à Emmanuel Macron et à son gouvernement de répondre et d'apporter les moyens aux communes et aux préfets, notamment dans les départements, de leur dire « on va vous trouver des solutions et des solutions financières ».
Alors justement, vous faites allusion à Emmanuel Macron. Il dirige notre pays depuis déjà quelque temps avec des ministres républicains, Bruno Le Maire notamment, que vous aviez soutenu pendant la campagne des primaires de la droite. Quel regard vous portez sur le travail qui est réalisé par Emmanuel Macron, sans parler de la réforme du Code du travail qui va être rendue publique aujourd'hui, et donc on va parler bientôt très objectivement et sur du solide sur la réforme du Code du travail et pas sur les on dit et les on attend comme on l'a fait jusqu'à ces jours-ci. Quel regard portez-vous sur l'action d'Emmanuel Macron et de ses ministres?
Je crois que depuis mai 2017, il y avait une attente autour d'Emmanuel Macron car il a suscité un espoir. Malheureusement, depuis 100 jours, il y a une réelle déception là, qui est légitime du fait du manque de réformes, ou du moins ce qu'ils appellent réformes, ce sont des hausse d'impôts. Malgré toute l'amitié que je porte à Bruno Le Maire, et il le sait, ainsi qu'à Sébastien Lecornu et à Gérald Darmanin, qui sont des amis et qui sont aux responsabilités, on ne peut mettre en concurrence, on ne peut mettre en France faire des conflits générationnels. Par exemple, quand Bruno Le Maire dit c'est aux anciens de porter la responsabilité et d'avoir des hausses d'impôts pour permettre aux jeunes de travailler. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose d'opposer les uns et les autres. On est un pays uni, indivisible. C'est pas la solution. Et sur ce point-là, je crois qu'Emmanuel Macron se trompe et se trompe lourdement.
Je crois que vous avez oublié un ministre important de droite qui quand même chapeaute tout cet équipage, c'est Édouard Philippe.
Oh. À titre personnel, j'aurais préféré que Édouard Philippe soit nommé après les élections législatives, et il a fragilisé, d'après moi, l'ensemble du bloc droite et centre en devenant Premier ministre d'Emmanuel Macron dès son intronisation. Quand je dis ça, c'est pas en parlant de clan, c'est simplement de dire que Emmanuel Macron avait un moment l'idée de supprimer la droite et la gauche. Il a clairement dit, il y a eu plusieurs reportages dessus. Moi, je crois que c'est une mauvaise idée, parce que le clivage gauche-droite, même s'il peut être atténué sur certains sujets, il existe. Et c'est une bonne chose, parce que ça permet d'avoir des oppositions. Une opposition utile. Une opposition utile, ça veut dire être utile aux Français, et non à son parti, comme malheureusement c'est le cas parfois. Dans mon propre camp, je l'admets volontiers. Et être utile aux Français, c'est s'opposer quand ? Ben, par exemple, moi je vous prends l'exemple des travailleurs détachés, moi j'encourage Emmanuel Macron à aller dans cette voie-là, parce que depuis 5 ans, la droite et le centre disent qu'il est important et primordial de revoir ces travailleurs détachés, et notamment de la Pologne. Arrivé aux manettes, Emmanuel Macron le fait, et nous on dirait que c'est pas bien, juste parce que ce n'est pas nous qui portons cette réforme-là. Je crois qu'il faut être constant et cohérent, et concernant un ministre, ou plutôt secrétaire d'État de notre département, je crois qu'il en manque singulièrement, comme vous avez pu le voir ces derniers jours, puisque l'an dernier, quand il était socialiste, il était pour les emplois aidés. Aujourd'hui, maintenant qu'il est marcheur, il est contre les emplois aidés. C'est manquer de constance, manquer de cohérence, et malheureusement, le gouvernement d'Emmanuel Macron en manque cruellement.
Oui, vous êtes en train de parler de Christophe Castaner, évidemment. Alors, on va revenir à Manosque, si vous voulez bien, et je vais en profiter, parce que vous parlez de Christophe Castaner. Il avait lancé une grande marche à travers sa circonscription, Christophe Castaner, il y a un an, juste avant de se présenter. Et sa grande marche avait commencé où, vous vous rappelez ? Sur le Mont d'Or. Et c'est là où vous invitez les Manosquins ce samedi à venir. C'est une analogie ou c'est une coïncidence ?
C'est une coïncidence, comme quoi parfois il peut avoir de bonnes idées. Donc on va pouvoir lui récupérer celle-ci. Comme je l'ai
ça
dit.
Ça n'était qu'un symbole hein, entre nous.
Oui, mais après, vous savez, à Manosque, il y a deux symboles. Il y a la chapelle Tout aux Ors et la tour du Mont d'Or. Chaque année, j'organise un repas à la chapelle Tout aux Ors. Là, je voulais faire quelque chose sur la tour du Mont d'Or. Bon, on a eu cette idée avec un certain nombre d'amis. On se retrouvera et on aura une pensée, petite pensée amicale pour notre ami Christophe Castaner, qui fait un formidable boulot au sein du gouvernement socialiste d'Emmanuel Macron. Vous aurez compris mon ironie.
On va vous laisser responsable de vos dires, Camille Galtier. Rappelons en termes pratiques ce qui va se passer samedi pied du Mont d'Or.
Rendez-vous à 17h30 devant l'école du Colombier. Il y aura une petite marche puisque c'est seulement 1 km, même si c'est pentu. Vous venez en basket, en t-shirt, en short et je vous offre l'apéritif en haut avec un peu de vin, un peu de rosé pour fêter cette fin de saison estivale.
À quelle heure ?
17h30.
17h30 en bas, juste à l'école du Colombier.
Hein, c'est exact.
Et vous montez juste en haut. Il n'y a pas de navette pour redescendre, mais ça descend tout seul. Donc
ça descendra tout seul. Et en plus, on aura un peu bu, on se sera rafraîchi, ça descendra facilement.
Oui, avec modération quand même, Camille Galtier.
Très bon. Beaucoup de modération, François.
Merci beaucoup d'avoir été mon invité, puis d'avoir parlé avec autant de franchise et de simplicité de politique. Ça fait du bien. Et puis, votre génération a encore beaucoup de choses à faire et à prouver aussi.
Merci à vous et merci à votre équipe.
On vous attendra évidemment au fur et à mesure de l'actualité politique sur notre antenne.